Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.
La sécheresse consécutive à la canicule de cet été a eu des conséquences sur la production agricole dans son ensemble. Ces baisses de production ont un impact direct sur le revenu des agriculteurs et des paysans qui subissent des pertes. La Confédération paysanne a demandé la mise en place d'une aide d'urgence. Nous en parlons ce vendredi avec Jonathan Chabert, il est paysan maraîcher et militant à la Confédération paysanne. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, quel a été l'impact de la sécheresse sur les exploitations? Est-ce qu'on l'a déjà mesuré ou est-ce qu'il faut encore un peu attendre?
Non, malheureusement, il est déjà mesurable, que ce soit sur les fourrages, que ce soit en maraîchage. On va attendre encore un petit peu pour le mesurer en arboriculture, mais on a déjà des indicateurs. L'impact est très néfaste et très violent, et pour beaucoup de fermes.
Cet impact, évidemment, il a des conséquences sur le porte-monnaie des paysans, des agriculteurs. Est-ce que, justement, cet impact, là aussi, est important? Est-ce que c'est du jamais vu, finalement?
La dernière fois, c'était en 1976, rappelez-vous. La précédente, quand nous avons une forte canicule, c'était 2003, donc il y a déjà des précédents. Maintenant, le bouleversement climatique s'accélère, donc les impacts du climat sur les exploitations agricoles, sur les fermes, est malheureusement accéléré. Je vais être gentil en parlant depuis 2 ans, parce qu'on pourrait être un peu plus large. Mais il s'accélère réellement depuis ce pas de temps, on va dire 5 ans, pour être plus large. Donc l'impact sur le revenu est important, l'impact sur les productions agricoles est importante, donc la souveraineté alimentaire, la capacité de pouvoir nourrir les territoires et aux paysannes et aux paysans d'avoir du revenu.
Quelle est la nature des aides que vous réclamez à la Confédération paysanne?
Alors, nous avons une demande sur des aides long terme et nous les avons demandées lors de la réforme de la PAC pour pouvoir être en capacité justement de mettre en place des systèmes résilients que nous défendons et qu'on appelle l'agriculture paysanne. Et là, à très court terme, pour passer l'année, on demande plusieurs choses. On demande à ce que les fourrages, par décret ministériel, soient priorisés sur l'élevage. On a vraiment une crainte, c'est que la consommation des fourrages passe majoritairement dans les méthaniseurs ou que la consommation soit augmentée. Et donc, qu'il y ait une pénurie de pouvoir nourrir les animaux en cours de l'hiver. Et là, c'est une crainte que nous commençons à avoir de plus en plus, première chose. Deuxième chose, une aide aux revenus pour pouvoir passer l'hiver, pour pouvoir passer l'année sur les fermes les plus impactées, particulièrement en maraîchage ou en plantes aromatiques et médicinales. J'espère pas trop en arboriculture, mais on peut le craindre aussi, en élevage aussi, bien sûr. Donc une aide forfaitaire maximale de 15 000 euros. Et la troisième chose, une réelle volonté de protéger l'agriculture, quoi.
Il faut des mesures à long terme, finalement, pour protéger cette agriculture qui est moins intensive, qui n'est pas intensive d'ailleurs.
Il faut des mesures pour protéger la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que les mesures de protection, des prix minimums d'entrée ou des aides à l'actif sont des mesures efficaces à long terme. Une réelle politique d'installation pour atteindre le million de paysans nécessaire à ce que les territoires puissent être alimentés le plus localement possible. Et enfin, une sociabilisation, c'est-à-dire une sécurité sociale alimentaire. Là, nous avons réellement des perspectives et nous pouvons avoir des perspectives d'avenir solides si le gouvernement déploie, le gouvernement et le Parlement, bien sûr, déploie ce genre de projet de loi ou ce genre d'initiative, justement pour arrêter cette course sans fin de mettre à court terme des mesures d'accompagnement court-termistes qui sont de sauter d'une crise à l'autre et demander des aides d'une crise à l'autre sans aucune perspective solide de résolution ou de résorption de celle-ci.
Alors ça pose aussi la question du changement du modèle agricole en matière d'environnement en particulier. On a vu que l'eau a été la source de préoccupation principale cet été. On a vu aussi des polémiques naître autour de ces réserves d'eau. Comment se situe la Confédération paysanne autour de ça aujourd'hui, autour de ce sujet ?
L'enjeu autour de l'eau, c'est bien évidemment la capacité d'avoir de l'eau potable pour les habitants et les habitants, d'avoir de l'eau à disposition. Certains départements sont en crise. Dans les Côtes d'Armor, nous avons un enjeu, c'est que d'ici 3 mois, s'il ne pleut pas suffisamment, il pourrait y avoir des restrictions, puisque la problématique, c'est de ne plus avoir d'eau potable d'ici 3 mois. Ça, c'est vraiment la réalité présente. Vous parlez des méga-bassines. À la Confédération paysanne, et je suis d'ailleurs, c'est parti, des irrigants. Nous ne sommes pas contre l'arrêt de l'irrigation, nous ne sommes pas opposés au principe de stockage de l'eau, mais le meilleur endroit pour stocker l'eau, c'est dans le sol. Les méga-bassines doivent être réellement encadrées et définir un besoin collectif. On peut stocker de l'eau, mais le meilleur endroit pour stocker l'eau, c'est dans le sol, je le répète. faire des surfaces ouvertes pompant l'eau dans les nappes phréatiques pour les mettre à la surface qui vont s'évaporer, c'est un cercle qui n'est pas vertueux. La meilleure question à se poser, c'est quel est l'usage de l'eau ? Avant de stocker de l'eau, c'est pour quel usage ? Un système qui va continuellement la disperser et la gaspiller, ce n'est pas vertueux. Allons vers l'économie d'eau, allons vers la question qu'est-ce qu'on fait pour économiser l'eau d'un point de vue pratico-pratique et pour que ce soit réellement efficace. Nos systèmes résilients qui peuvent être démultipliés et il y a eu des recherches très efficaces pour l'économie d'eau et des cultures résilientes ont été faites encore récemment, permettent justement d'avoir un stockage efficace. Les mégabassines, si elles sont généralisées, ne seront pas une solution d'avenir puisqu'elles pompent de l'eau dans les nappes phréatiques, éventuellement la récupération d'eau de pluie, ce qui est l'argument majoritaire, pourrait s'entendre, sauf que quand on est dans un système où il n'y a pas de récupération d'eau de pluie, qu'elle s'évapore et que c'est efficace d'un point de vue du cycle de l'eau tous les 10 ans, on n'est pas sur une gestion courante efficace. Regardez ce qui s'est passé dans les pays du bassin méditerranéen ou d'autres pays mondiaux qui avaient basé énormément de leur stockage sur des mégabassines. Dans des situations de sécheresse, ça ne marche plus.
Jonathan Chabert, sur le modèle agricole, il va être à revoir. On voit que l'échéance se rapproche finalement pour qu'il y ait une discussion autour de ce modèle agricole, alors particulièrement ici en Bretagne, où on est dans un modèle quand même très productiviste. Est-ce que les acteurs vont pouvoir se mettre autour de la table pour pouvoir discuter ? Parce qu'on a l'impression de positions irréconciliables.
Ce que nous souhaitons à la Confédération, c'est la souveraineté alimentaire, avec des paysannes et des paysans nombreux. On veut pas moins de paysans, on veut pas que des petites fermes, on veut une diversité de fermes, on veut une diversité de production, d'élevage, de maraîchage, d'arboriculture, de tout ce que vous voulez. Nous voulons une diversité de paysannes et de paysans dans tous les secteurs, dans tous les cantons, si vous voulez. Et nous sommes désespérés de voir l'hémorragie agricole continuer d'année en année. Et cet enjeu semble écouté, pas assez entendu, et on peut choisir différents modèles de production, comme je l'ai dit. Par contre, il va falloir savoir concrètement qu'est-ce qu'on veut comme modèle agricole, parce que effectivement l'avenir s'en repose là-dessus, quoi.
Alors il y a aussi des agriculteurs qui, alors on parlait de méthanisation tout à l'heure, hein, vous y faisiez allusion, qui ont choisi la méthanisation ou d'autres qui produisent de l'électricité. Est-ce que demain le paysan sera aussi un producteur d'électricité, un producteur d'eau, pourquoi pas ? Est-ce que ça fait partie des diversifications que vous imaginez ou est-ce que c'est un autre métier ou d'autres métiers ?
En tant que paysan, nous avons choisi le métier de la terre, si je puis dire, de produire des biens alimentaires, c'est notre première fonction. D'abord, celle-ci doit être assurée, la rémunération des paysannes et des paysans à partir de la production agricole doit être assurée avant de se poser la question de chercher un complément de revenu. La méthanisation ou la production d'électricité, c'est un complément de revenu. Si ça en devient le revenu principal, ce n'est plus une fonction agricole. Dans ces cas-là, on ne peut pas parler d'agri, je ne sais quoi, où c'est une production qui n'est pas agricole. Et on a bien constaté sur des fermes en agrivoltaïsme, sur plusieurs hectares, qu'il n'y a plus de production agricole sous ces fermes qui reçoivent des hectares de panneaux solaires. Donc la production agricole disparaît au profit d'une production qui reçoit une contractualisation sur 20 ans. Quand le prix du lait est garanti sur un mois, mais que la production d'électricité est garantie sur 20 ans, comprenez la pétence qu'on peut aller vers cette garantie de revenus. La première priorité, c'est de garantir le revenu de la production agricole. Après, on parlera des alternatives. Et puisqu'on en parle, qu'il y ait une politique réelle d'isolation des bâtiments pour éviter les passoires thermiques, pour éviter les déperditions de réseaux. Et de là, on parlera d'économie d'énergie réelle et on se dira, bon, on a peut-être besoin de compléments, mais d'abord, on évite on évite les fuites.
Un dernier mot, Jonathan Chabert, sur la sécurité alimentaire. Avec ces fermes, ce développement des panneaux photovoltaïques, par exemple, qui occupent un espace agricole, c'est d'autant moins de production agricole pour les cultivateurs, pour les paysans, pour les agriculteurs. Est-ce que, justement, il va falloir avoir une législation qui va amener à peut-être dire, voilà, on ne met pas plus de X hectares en production d'électricité pour pouvoir garantir à côté X hectares en production de fourrage ou évidemment pour du pâturage ou autre.
Il y a deux choses. Vous avez évoqué la sécurité alimentaire, nous parlons de souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est une décision démocratique sur la gestion de l'agriculture et donc de l'alimentation. Déployer une sécurité sociale alimentaire, c'est déployer la possibilité pour les territoires, pour les citoyens, les paysannes et paysans de décider ce qu'ils veulent de leur agriculture et de leur alimentation. Et la proposition de la Confédération sur les prix minimums d'entrée, c'est une proposition internationaliste. Ce n'est pas du nationalisme. Nous proposons un protectionnisme de la production agricole qui peut éventuellement se déployer sur d'autres ports, mais qui soit internationaliste, c'est-à-dire que ça marche des deux côtés de la frontière. C'est-à-dire qu'on peut créer quelque chose qui donne de la valeur aussi aux paysannes et aux paysans exportateurs pour basculer, pour changer de système. Est-ce qu'il faudra des quotas? Est-ce qu'il faudra je ne sais quoi? C'est une décision démocratique. C'est pas à moi à la décider. À la Confédération, nous sommes pour la protection de l'agriculture, mais dans une décision d'alimentation, si vous voulez, de souveraineté alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est garantir que vous avez une boîte de conserve dans un frigo. La souveraineté alimentaire, c'est que des personnes ont décidé qu'il y aura des légumes frais à disposition de chacun et de chacune. C'est pas la même chose.
Voilà, fallait effectivement préciser le terme, et vous l'avez très bien fait, Jonathan Chabert. Un dernier mot, on voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se tournent vers l'agriculture raisonnée ou bio. Est-ce que pour vous, c'est une satisfaction pour l'avenir de voir ces jeunes qui se tournent vers des modèles agricoles plus respectueux de l'environnement ?
Tout effort pour l'installation est salutaire. On parlait de modèle agricole tout à l'heure. L'agriculture raisonnée, ça n'existe pas. Soyons clairs, qu'est-ce que c'est l'agriculture raisonnée? C'est de ne pas avoir la main sur le pulvé. Qu'est-ce que c'est l'agriculture raisonnée? Plus on ira vers l'installation, plus on garantira les transmissions, c'est déjà le meilleur effort qu'il puisse y avoir. Les modèles vertueux, l'agroécologie, c'est quelque chose que nous portons et quelque chose que nous défendons. Donc effectivement, j'appuierai dans ce sens-là. Mais je suis heureux de voir aussi des fermes aujourd'hui en conventionnel être reprises, sinon elles disparaîtraient. Et la transition se prépare, la transition s'anticipe, et si la volonté affichée du gouvernement, c'est de soutenir l'agroécologie et l'agriculture biologique, va falloir qu'il lise un peu plus attentivement le dernier rapport de la Cour des comptes à ce sujet, et qu'il change sa politique en termes de soutien public à cette dimension, en supprimant le crédit d'impôt haute valeur environnementale.
Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Jonathan Chabert, je rappelle que vous êtes paysan maraîcher, militant à la Confédération paysanne, et vous étiez avec nous ce matin sur l'antenne de Bretagne 5 en direct. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée.
Très bonne journée à vous, merci.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.